بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Et quand il eut atteint le couchant, et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Thumma atba'a sababa, puis il suivit une autre voie. Donc mes chers frères en islam, ce soir inshallah, on va essayer de découvrir la deuxième destination parcourue par Dhul-Qarnayn. La deuxième destination parcourue par Dhul-Qarnayn après qu'on ait expliqué il y a deux semaines le Maghrib al-Shams. On avait parlé du couchant, l'endroit où le soleil se couche, et on avait vu que par rapport au tafsir, différents commentaires des versets du Coran, par rapport à des études très précises et très techniques, sérieuses qui ont été faites par un professeur qui s'appelle Hamdi bin Hamza Abu Zayd, qui a été visité certaines régions du monde et il a fait des comparaisons entre les tafsirs, la situation géographique et topographique, ça se dit comme ça, topographique. Il en est arrivé à la conclusion que Maghrib al-Shams, l'endroit qui a été visité en premier lieu par Dhul-Qarnayn dans son périple, lorsqu'il a voyagé de pays en pays pour propager l'unicité d'Allah Azza wa Jal, cet endroit se situerait, on reste dans le conditionnel, parce que ce sont là des recherches, ce n'est pas un ilm yaqin, il n'y a pas un texte coranique, il n'y a pas un texte prophétique ou l'opinion d'un sahaba qui précise que Maghrib al-Shams, ça correspond à tel endroit du monde. On avait vu, on reprend un petit peu en introduction ce que j'avais dit l'autre fois, que ce n'est pas là un élément essentiel, ça ne fait pas partie des choses basiques de la foi du croyant, mais d'ailleurs, si c'était aussi important, le professeur nous aurait informé où se trouve le couchant, où se trouve le levant, et ainsi de suite, et le pays entre les deux montagnes. Le Coran n'a pas donné d'informations, le professeur ne l'a pas expliqué, parce qu'il y a une hikma dedans. Mais comme nous, on étudie vraiment de manière précise l'histoire de Dhul-Qarnayn et ses voyages et son parcours, par rapport à ça, on peut s'intéresser à une thèse, on dit bien une thèse avancée par un chercheur, un spécialiste en civilisation et tout. Et donc, selon ses recherches, il est arrivé à la conclusion que Maghrib al-Shams, le couchant se situerait sur l'équateur, d'accord, absolument sur l'équateur, parce que c'est en rapport direct avec le soleil. Et par rapport au verset qui parle d'une source boueuse, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, d'accord, par rapport à différentes descriptions géographiques de l'endroit qu'il a visité, qui serait dans l'océan Indien, sur l'équateur, ça se situerait près des îles Maldives, selon ce savant, Dhul-Qarnayn serait allé vers cette région du monde qu'il a appelé donc Maghrib al-Shams. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le deuxième lieu qu'a visité Dhul-Qarnayn. Et on rappelle encore une fois pourquoi est-ce que Dhul-Qarnayn entreprend de tels voyages. Dhul-Qarnayn avait vu que normalement il est héritier du trône d'Égypte, mais un royaume affaibli parce que l'armée égyptienne a été anéantie, engloutie, d'accord, noyée entièrement par le azab d'Allah lorsqu'il les a détruits face à Moussa alayhi salam. Et donc il a essayé de réformer le pays. Il a essayé de réformer le pays en essayant de convaincre d'abord les ministres, parce que les ministres en Égypte, ils avaient un poids, les sorciers, enfin je ne sais pas s'il y en avait encore à son époque, la population d'une manière générale a abandonné l'adoration du soleil principalement, et le polythéisme d'une manière générale, et on sait que principalement les Égyptiens vénéraient le soleil. Si je ne me trompe pas, le na'oudou billah, le divinité du soleil chez les Égyptiens s'appelait Ra, R avec un A accent circonflexe, si je ne me trompe pas, d'accord. Donc, Dhul-Qarnayn, on avait vu qu'il a fréquenté donc Moussa alayhi salam, à Khétanon, Akhenaton plutôt, d'accord. Ce nom franchement est compliqué. Akhenaton aurait fréquenté donc Moussa alayhi salam lorsqu'il prêchait l'unicité d'Allah, et selon ce savant, ce serait certainement cette personne qui est qualifiée dans le Coran comme étant rajulun mu'min wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun, quelqu'un qui était dans les parmi les Al, c'est-à-dire parmi les proches de Pharaon, qui se permettaient de réprimander, de faire des reproches à Pharaon lorsqu'il voulait châtier, chasser Moussa alayhi salam. Et le seul qui pouvait faire des reproches à Pharaon, c'est une personne qui était proche de lui, qui faisait partie de sa famille et qui ne craignait pas donc le châtiment de Pharaon, qui était quand même quelqu'un d'impitoyable. Et donc il prenait la défense de Moussa alayhi salam, il prenait la défense des aqidah, des croyances prêchées par Moussa alayhi salam, et selon donc ce savant, très certainement c'est lui cet héritier du trône et qui a dû donc qui a dû quitter son pays pour parcourir le monde parce qu'il ne pouvait plus rester dans son pays. Certainement la population n'a pas accepté son invitation vers le monothéisme pur, donc il a quitté le royaume d'Égypte et il a entrepris des voyages, d'accord, et il est allé visiter certaines contrées pour propager l'unicité d'Allah. Et ce qui est intéressant dans la recherche de ce jour de Matli al-Shamsi, du levant, ce savant a dit que certainement la mission que Dhulqarnayn s'est fixé lui-même, c'est une inspiration divine ou alors un élan de iman qui l'a poussé vers des recherches pour aller dans des endroits qui sont tous en rapport avec le soleil. Et donc, hypothèse possible, c'est que sachant que son peuple vénérait le soleil, il a vraiment voulu élucider le mystère, voir vraiment l'endroit où le soleil se lève, où il y a les premiers rayons du soleil et où le soleil se couche également, on pourrait dire ça comme ça, pour vraiment prouver que ce n'est là qu'une créature d'Allah Azza wa Jal. Donc, lorsqu'il a quitté la zone, cet endroit sur l'équateur, d'accord, et il continue son périple, il va aller vers un autre endroit qualifié dans le Coran comme étant hatta ida balara matli ash-shamsi, comme étant le levant. Alors, tout d'abord, dit que le parcours emprunté, comme on vient de dire, enfin on a un peu anticipé, le parcours emprunté par Dhulqarnayn n'est pas un hasard. Déjà, ce n'est pas un hasard. Il y a deux possibilités, et on verra aussi par la suite que certains savants sont d'avis que Dhulqarnayn a reçu la prophétie de la part d'Allah Azza wa Jal. D'autres savants disent que non, c'était donc une puissance de iman qui l'a poussé vers ce voyage pour prêcher la vérité aux gens, pour les montrer que l'adoration du soleil ou d'être divinité à part d'Allah, c'est que de la perdition, et les ramener vers le tawhid, vers le monothéisme pur. Et petite parenthèse, le seul descendant des empereurs égyptiens qui n'a pas été momifié, dont on n'a pas retrouvé le sarcophage, c'est cette personne. Alors que tous les autres, ils suivaient donc la tradition d'Égypte qui était de momifier, de les mettre dans les sarcophages. Hada. Donc, alors on avait une carte, on voulait projeter, mais le projecteur ne marche pas. Donc, regardez bien, on va voir un petit peu à travers une carte quel fut le parcours de Dhulqarnayn. Tout d'abord, Dhulqarnayn va quitter son royaume, c'est-à-dire l'Égypte, mais Masr. Il va quitter l'Égypte sur des navires, donc les navires qui sont typiques aux empereurs d'Égypte, pharaons, etc. Et il va emprunter Al-Bahr al-Ahmar, la mer rouge. Et il va passer donc dans le canal de Suez pour arriver jusqu'à une mer qui s'appelait Bahr al-Arab. Je ne sais pas ça correspond à quelle mer, la mer des Arabes, ça une équivalence, non? Bahr al-Arab, bon c'est l'appellation arabe, je n'ai pas la traduction. Ensuite prendre la direction de Al-Muhit al-Hindi, donc de l'océan Indien, pour arriver exactement il a Khatt al-Istiwa, l'équateur, cette zone qui traverse le milieu donc du globe terrestre, d'accord? C'est vraiment les zones les plus chaudes au monde. Et à cet endroit, sur cette zone, il va aller vers un endroit où qui sera qualifié de Maghrib al-Shamsi, et on avait vu que ce serait à peu près vers les îles al-Maldives. Ensuite, après avoir resté quelques temps là-bas, inviter les gens vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il va reprendre la route Sharqan, en direction de l'est, et cette fois-ci, là, il repasse, donc il retraverse l'océan Indien, toujours sur la ligne sur l'équateur, jusqu'à arriver à l'océan donc Pacifique. Et donc, et là on va directement vers l'endroit et puis on va expliquer pourquoi on peut dire que c'est l'océan Pacifique. Le Matli' al-Shamsi, l'endroit qui est qualifié comme étant le levant, serait toujours, ça reste toujours sur l'équateur, ce serait cette fois-ci dans l'océan Pacifique. Resté quelques temps là-bas, il accomplit sa mission. Ensuite, il va reprendre son vaisseau, reprendre donc son navire, prendre la direction de l'ouest, al-Gharb cette fois-ci, traverser le Pacifique, arriver jusqu'à la mer qui est proche de là, de la Chine, pour aller à la rencontre du peuple chinois qui va donc lui demander ce khidma extraordinaire, lui demander de l'aide, supplier pour qu'il apporte son aide et sa connaissance, sa science, pour protéger contre ces deux populations, les Ya'juj et les Ma'juj. Donc voilà, on a, il y a une petite carte hein, qui était pas mal, donc si on pouvait, peut-être la semaine prochaine, si on peut trouver le câble qu'il faut pour faire la projection, quelque chose de très simple. À travers le livre, je ne sais pas si c'est tout à fait visible. Donc là, on est en Égypte. Là, on est en Égypte, d'accord ? On est en Égypte. Donc, de l'Qarnayn, il descend. Ça, c'est l'équateur. L'équateur, c'est cette ligne qui traverse donc le globe, d'accord ? Il vient, il arrive vers cet endroit, c'est l'océan Indien. On va dire à peu près les îles Maldives. Ensuite, il va continuer son périple à l'extrême, jusqu'à cet endroit. Il rentre donc dans l'océan Pacifique. Et là, il va aller vers l'archipel, hein, selon la rochette de cette personne, des îles hein, qui s'appelleraient Kiribati. Donc, c'est des îles. Et on va voir pourquoi est-ce que, selon lui, c'est exactement cet endroit. C'est-à-dire, contrairement à Maghrib al-Shamsi, où l'auteur il a dit qu'il n'était pas sûr de l'endroit, c'était des suppositions, lorsqu'il parle de Maghrib al-Shamsi, il est 98% sûr que c'est cet endroit. Parce qu'il y a tellement de dalaïl, de preuves, hein, qui vont rejoindre le sens des versets, le tafsir que les savants ont fait du verset, que selon ce chercheur, il est persuadé que c'est dans cette région du monde, cette haute extrême hein, région du monde, que Dhul-Qarnayn est arrivé. Et à partir de là, l'océan Pacifique, il va retourner sur ses pas pour traverser d'autres océans, pour arriver jusqu'à la Chine. Et c'est là qu'il va donc rencontrer, comme on l'a dit tout à l'heure, les Chinois. Et il va donc construire ce radm, hein, ce barrage, pour protéger le peuple chinois de Ya'juj wa Ma'juj. Alors, on va pas faire comme l'autre fois trop de détails, parce qu'il y a tellement de choses et ça va être trop technique. On va aller directement au but, d'accord ? Qu'est-ce qui fait que ce savant, ce chercheur, est sûr de lui cette fois-ci que Matli' al-Shamsi, le levant, se trouve dans l'océan Pacifique et toujours sur l'équateur ? Il dit que, déjà, quand dans le Coran, on parle de Matli' al-Shamsi, il y a ce qu'on appelle une annexion, d'accord ? Et l'annexion, ça donne une indication sur quelque chose, ça donne une indication précise. C'est pas comme un nom qui est indéterminé. Quand on parle d'annexion, on sait exactement de quoi on parle. Donc il dit que le lieu qui a été cité par le Coran ne correspond pas à un endroit au hasard de le monde. C'est vraiment un lieu précis qui a été visité donc par Dhul-Qarnayn. Et si on parle de Matli' al-Shamsi, de levant, c'est que vraiment c'est le premier pays, la première zone du globe terrestre, d'accord, qui voit les premiers rayons de soleil. Le premier endroit du globe terrestre qui voit les premiers rayons de soleil tous les matins au lever du soleil. C'est pour ça que dans le Coran, c'est qualifié de Matli' al-Shamsi, de levant. Vous savez, il y a un pays qui a le surnom le pays du soleil levant. C'est le Japon. Mais on va voir que avant le Japon, hein, c'est pas le Japon qui reçoit les premiers rayons du soleil. Il y a un petit endroit dans le monde qui est vraiment preuve à l'appui, d'accord. Il reçoit régulièrement les premiers rayons de soleil et c'est là Matli' al-Shamsi. Alors on revient, on va pas se perdre dans différents points. Donc ça doit être le premier lieu au monde qui voit le jour, d'accord. Ça doit être également un endroit où il n'y a aucun décalage entre le lever et le coucher du soleil toute l'année. Il ne doit pas y avoir d'été ni d'heure d'hiver. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le soleil se lève à une heure fixe toute l'année et il se couche à une heure fixe pour que vraiment ce lieu géographique a une relation, on va dire, très forte avec le soleil et vraiment dépendant de, on va dire, du coucher, du lever, pardon, du soleil. Et l'endroit qu'il a visité, il dit que toute l'année, le soleil se lève à 6h30 et se couche à 18h30, toute l'année. Il n'y a pas une minute d'avance, ni une minute de retard, il n'y a pas d'heure d'été, comme on a dit, ni d'heure d'hiver. Et troisièmement, si cette zone a été décrite comme étant Matli' al-Shamsi, le levant, c'est que cet endroit est couvert par le soleil, et c'est-à-dire que l'endroit doit, l'intégralité du lieu géographique doit être concernée par cette spécificité. C'est-à-dire, ça ne peut pas être un continent, ça ne peut pas être un grand pays où une zone seulement est concernée par cette spécificité concernant le lever du soleil. Non, ça doit être donc un endroit réduit où l'intégralité de la zone est baignée par le soleil dès les premières secondes de la matinée. Quatrième preuve également pour qu'on puisse affirmer que c'est dans l'océan Pacifique. Il dit que, et ça c'est intéressant, dans le verset « Lam naj'al lahum min duniha sitra ». Je ne sais pas si on a traduit ça tout à l'heure. Et quand il a été de cet endroit, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Je répète, ça c'est une indication extrêmement précise. Une peuplade, des gens donc, à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Alors, dans une première lecture, une personne peut se dire que ça veut, peut-être qu'il a rencontré un peuple qui n'avait pas de vêtements, d'indigène. On peut penser, ça peut arriver, passer par l'esprit. Mais lui, il va plutôt vers le tafsir que nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. C'est-à-dire qu'un endroit où il n'y a aucune protection, aucune montagne, rien du tout, qui peut protéger ne serait-ce qu'un morceau de cette terre du soleil. C'est un endroit qui aplanit complètement, qui est au niveau de la mer, il n'y a pas d'endroit élevé ou autre chose, c'est vraiment un endroit qui est baigné par le soleil dès les premières secondes où Allah Azza wa Jal ordonne que la journée, donc le soleil se lève sur cette surface du globe. Et donc après toutes ces recherches, il est arrivé, ils vont donc vers le Pacifique, vers les îles donc Kiribati, pas avec un P, avec un B, Kiribati. Et arrivant à cet endroit, en arrivant là-bas, il a été donc fait des recherches et il s'est rendu compte que, subhanallah, même les habitants de l'île, ils sont conscients, c'est de la culture, ils savent que leur pays est le premier pays béni par les rayons du soleil. Donc il y a un rapport très fort avec le soleil. Et autre signe, on va dire probant, c'est que les fuseaux horaires de cette île Kiribati est unique au monde. Il est donc sur l'équateur et il est, vous savez, quand on parle de fuseaux horaires, il y a des longitudes et des latitudes, pas des largitudes, d'accord, j'ai dit des largitudes, merci, des longitudes et des latitudes. Il y a un croisement spécifique qui est juste au niveau de l'équateur qui fait que, subhanallah, c'est un pays, c'est vraiment l'endroit où on peut avoir une journée d'avance ou alors une journée, 24 heures complètes de retard. Il y a un seul endroit au monde où il y a un tel fuseau horaire, c'est justement les îles donc Kiribati. Et il y avait également, on va dire, un reportage qui avait été fait sur cette île, d'accord, à l'aube de l'an 2000. Il y avait pas mal de journalistes qui avaient fait le déplacement vers cette île. Il y avait une affiche, je ne sais pas si je l'ai. Ils invitaient les gens à venir voir le premier rayon de soleil de l'an 2000. Voilà, The first sunrise of the new millennium. Le premier rayon de soleil de l'an 2000. Donc, c'est reconnu par spécialistes de géographie du monde entier que ces îles-là, c'est les premiers endroits au monde où le soleil donc se lève donc symboliquement pour l'an 2000. Ils ont fait un reportage là-bas. Bref, tout ça pour tout ça, c'est des preuves quand même. On va dire encore une fois, c'est pas ilm yaqin, c'est pas une certitude, mais ce sont là des preuves qui nous amènent vers cette conclusion que, de toute façon, on sait que Dhulqarnayn a parcouru des endroits très loin, très opposés, et donc ça rejoint un petit peu par rapport au verset, par rapport à la description du couchant de Maghrib al-Shamsi. On avait vu que ça correspondait à peu près à l'équateur océan Indien et ce qu'il a vu sur les îles Maldives avec les geysers, avec les volcans et ainsi de suite, et par rapport à l'endroit où il y a une relation spécifique avec le soleil étant qualifié comme le levant, et un endroit qui est concerné par le soleil, ça ne peut correspondre que ces îles Kiribati, donc dans l'océan Pacifique, toujours sur l'équateur. Donc nous avons ce soir, alhamdoulilah, vu le deuxième endroit qu'a visité Dhulqarnayn. Maintenant, on pourrait peut-être, à la limite, dire que les lieux géographiques, c'est anecdotique. Mais bien, quand même bien à savoir. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant de savoir, c'est, on verra la prochaine fois, Inch'Allah, la troisième étape de son voyage, qui est l'étape la plus importante lorsqu'il va aller en Chine, donc, et c'est là qu'il va rencontrer un peuple chinois opprimé, d'accord, un peuple puissant, mais qui se retrouvait du coup impuissant face à deux grandes populations. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait fait une introduction sur Ya'juj ou Ma'juj, on avait expliqué que Gog et Magog, ce sont là deux peuples différents. Gog, c'est un peuple, et Magog, c'est un autre peuple. Donc ce savant, il est également de cet avis, et d'ailleurs il traverse sa carte, il met en gris clair, il est Ya'juj, Gog. C'est-à-dire dans toute la région, on va dire un peu plus la région de Chine, il est Ma'juj, l'autre population, hein, c'est plus dans le nord de la Chine, on est vers la Mongolie, vers la Sibérie et vers le Kazakhstan. Donc ça, on avait expliqué que ce sont là deux peuplades différentes. Et donc, ce qui va être déterminant la prochaine fois, Inch'Allah, c'est cette rencontre avec le peuple chinois et le travail qu'il va faire. Et avec ça, on va donc comprendre quelle était la troisième destination parcourue par Dhulqarnayn. Donc ça, c'était vraiment Mukhtasar ce soir, parce qu'on a autre chose de prévu. Donc ça, c'est les deux endroits certainement qui ont été visités par Dhulqarnayn. S'il n'y a pas de... On ne demande pas des questions d'habitude, mais comme c'était un peu technique, moi-même je ne vous cache pas que je m'y perds, parce que c'est plus géographique que religieux, donc il y a des fois il y a des termes aussi qui nous échappent un petit peu. C'est pour ça qu'on a fait un petit peu plus court, un peu plus mortassant. S'il n'y a pas de questions concernant cela, on voulait en 10 minutes, parce que bon, l'occasion est trop importante pour laisser passer, faire un petit rappel sur le jeûne de Ashura, d'accord? Parce que si, je ne sais pas si le rappel a été fait hier, j'espère, Inch'Allah, ou lors de la prêche du vendredi, extrêmement important, parce que mes chers frères, ça c'est un moment exceptionnel de l'année. À l'émission, on ne parle pas de Matla' al-Shamsi, de Maghrib al-Shamsi, c'est pas bien grave, on ne va pas perdre grand chose, mais si on loupe Ashura, on a tout loupé. Si un croyant n'a pas fait l'intention de jeûner demain, on a des questions à se poser. Là, c'est vraiment gravissime. D'accord? Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va droit au but, il dit qu'avec le jeûne de Ashura, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés de l'année qui s'est écoulée. Quand même, c'est énorme. Ce qu'on a gagné avec Allah Azza wa Jal, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors même si on travaille, même si on a des rendez-vous professionnels, même si on a, je ne sais pas, quelle que soit l'activité ou le travail qu'on a à faire, franchement, le jeûne de 10 Muharram est prioritaire. Et certains savants disent même que quand quelqu'un rate un Ramadan, on va dire que, bon voilà, en voyage ou il est malade, bon, il va remplacer. Il dit, mais si quelqu'un est en voyage pendant cette période, il est vivement conseillé que la personne jeûne quand même. Parce qu'il n'y a pas de qadha, on ne rattrape pas le jeûne de Ashura. Ramadan, on rattrape, d'accord? Bien sûr, le jeûne de Ramadan dépasse le Ashura, ça n'y a rien à dire. Entre quelque chose qui est faraz et quelque chose qui est sunnah, il n'y a pas de comparaison. Mais ce qu'on veut dire, c'est que le jeûne du Ramadan peut être rattrapé, d'accord? Tandis que le jeûne de Ashura, si quelqu'un a raté, vraiment, il a raté. Moi, je serais même tenté de dire, si quelqu'un allait supposer qu'il a fait l'intention de jeûner demain et qu'il n'a pas pu se réveiller pour le suhur, qu'il jeûne sans prendre de suhur. Même s'il va être un petit peu fatigué, un petit peu, d'accord? Mais c'est trop important, on ne peut pas laisser passer. Subhanallah, quand vous voyez comment les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, donnaient de l'importance au Ashura, que même leurs enfants jeûnaient. Ils disaient qu'on amenait les mamans, vous connaissez le hadith, vous entendez ça tous les ans, amener des petites balles de laine, d'accord? Des pelotes, voilà, des pelotes de laine dans la masjid pour faire jouer aux enfants, pour faire jouer les enfants, pour les distraire de la faim. Mais il fallait que les enfants également jeûnent Ashura. Ça, c'est vraiment de la plus grande importance. Maintenant, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le dixième. Et puis, il a dit que si Allah azza wa jal me donne vie jusqu'à l'année prochaine, je vais jeûner le neuvième également avec. Le neuf plus le dix. Mais Allah azza wa jal l'a repris avant, ce qui fait que le prophète n'a pas pu jeûner neuf plus dix, il avait jeûné dix. Donc, les savants disent qu'effectivement, pour se démarquer des autres croyances, il est mieux de jeûner 9 plus 10, ou alors 10 plus 11. Mais comme le prophète avait, alayhi salatu wassalam, avait cité 9, il est préférable de jeûner le 9e et le 10e. Donc pour la réunion, pour ici, D'accord, c'est pas le cas de la métropole ou ailleurs. Pour la réunion, donc le dixième Muharram, ce sera jeudi. Donc le neuvième, c'est demain. Maintenant, certains savants disent également, s'il est impossible pour quelqu'un de jeûner le neuvième, je ne sais pas, moi, la personne n'a pas d'autre possibilité que de jeûner que le dixième, qu'il jeûne le dixième, tout seul, c'est pas grave. Il aurait été mieux de joindre deux sommes avec, mais si quelqu'un se dit que, écoute, je ne peux pas faire deux carèmes, et comme jeûner un seul jour, c'est imiter d'autres peuples, donc je ne jeûne pas, ah non, là on n'est plus d'accord. Si la personne n'a pas d'autre solution que de jeûner que le dixième, qu'il jeûne que le dixième. Mais bien sûr, on revient vers l'idéal, ce qui a été prôné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de combiner 9 plus 10. Alors déjà, le mois de Muharram qu'on est en train de vivre est qualifié comme étant le Shahrullah, le mois d'Allah Azza wa Jal. Et le mois de Muharram fait partie des Ashhurul Hurum, des mois qui sont sacrés pour Allah Azza wa Jal. Et on va dire, parmi toutes ces dates importantes du calendrier islamique, hein, le Ramadan, et de Ramadan, l'année du destin, on a également, il y a des périodes énormes où Allah Azza wa Jal nous donne beaucoup de choses, les 6 Shawwal, le jeûne du Arafat et ainsi de suite, on pourrait dire que le 10 Muharram a sa place parmi les grands moments du calendrier musulman, du calendrier islamique. Donc le 10 Muharram est tout sauf une grande nuit, sauf un grand jour. Quand des gens disent 10 Muharram, la nuit du 10 Muharram, c'est une grande nuit, c'est pas une grande nuit. C'est un jour important où il est bien de jeûner, tout comme les Yahouds, les Juifs jeûnaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant lui également. Et même les Quraysh, les polythéistes, dans la période pré-islamique, avant la venue de l'islam, ils avaient également l'habitude de donner une importance à ce jour et de jeûner. Et Ibn Abd, non, on ne va pas directement vers le jeûne, Abu Huraira radiallahu anhu, un hadith de lequel il dit que Yom Ashura, kanat tasumuhu al-anbiya, fasumuhu antum, que les prophètes avant, même avant le prophète sallam, ils avaient déjà l'habitude de jeûner le jour de Ashura. C'est-à-dire que c'est une sunna universelle que les prophètes avant le prophète sallam donnaient de l'importance au Ashura. Donc, c'est pour ça qu'on voit, on va dire que c'est renforcer un peu plus al-iman de Rusul, la croyance sur les prophètes, parce que je fais une action qui a été accomplie par les autres prophètes avant mon prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans certaines sourates d'Ibn al-Jawzi rahimahullah, il dit que même les Ahl al-Kitab, les Yahoud bien sûr on le sait, les Juifs le jeûnaient, il dit même les chrétiens à un certain moment avaient l'habitude de jeûner le jour de Ashura. Et comme on l'a dit tout à l'heure, même les adorateurs d'idoles, les polythéistes à Mecca, dans le Jahiliya, dans la période d'ignorance pré-islamique, il le faisait. Et Akrama, radiallahu anhu, on lui a posé la question, quelle est l'importance du Ashura? Il dit, et quel est donc l'historique dans la péninsule arabe? Il dit que les Quraysh, dans la période de l'ignorance, ils avaient fait Zamba, un péché, on va dire un péché majeur. Et donc, ils ont eu beaucoup de remords. Il n'y a pas de détails sur le péché. Ils ont eu beaucoup de remords sur ce péché. Et ils ont essayé de trouver la réponse. De quelle façon est-ce qu'on pourra obtenir le Tawba, le pardon d'Allah pour ce péché? Et ils ont eu cette réponse, le jeûne du Ashura. Et à partir de ce moment-là, les polythéistes de Mecca, les Quraysh, ont pris l'habitude de jeûner le jour de Ashura. Maintenant, il y a pas mal d'histoires hein, qui sont relatées sur Ashura, sur les différents prophètes, etc., etc. Il y a certains qui sont authentiques. Hein. L'histoire, par exemple, de Moussa alayhi salam, là-dessus, il n'y a aucune divergence. Après, il y a d'autres histoires d'Ibrahim alayhi salam avec le feu, ou alors Isa alayhi salam, quand il a été élevé, ou alors le bateau, l'arche de Noé qui s'est stabilisé. Donc, il y a d'autres histoires, même Youssouf alayhi salam libéré de la prison. Il y a d'autres faits. Ce sont des événements qui ont réellement eu lieu dans l'histoire de ces prophètes, mais est-ce que ces événements ont eu lieu le jour de l'Ashura? Là, il y a quand même nécessité de faire quelques recherches. Il n'y a pas on va pas dire qu'il y a une preuve sûre qui va de ce sens, mais pour l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est authentique, et les prophètes alayhi salatu wa salam avaient donc l'habitude de donner de l'importance au 10 Muharram et de jeûner en ce jour de l'Ashura. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa salam, déjà, il jeûnait à Mecca avec tout le monde. Et arrivé à Madina Munawwara, Madina Nabawiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith très connu, a vu que les Yahoud jeûnaient. Et il a posé la question, il savait pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient. Ils ont dit que c'est l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire connue. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes ana ahaqqu bi Moussa wa ahaqqu bi sawmi hadha al-yawm. Dit qu'on a plus de droits sur Moussa alayhi salam. Et j'ai plus de droit moi-même personnellement de jeûner en ce jour. Il a donc ordonné les croyants de jeûner le jour de Ashura. Les savants disent que lorsque le prophète avait ordonné de jeûner, le jour de Ashura de Ramadan n'était pas encore obligatoire. Le Ramadan qui a été révélé en l'an 2 de l'Hégire. Le Ramadan a été révélé, le somme du Ramadan, en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire dans la période madani, lorsque les musulmans étaient à Madina. Donc c'était la première étape où il n'y avait pas encore le Ramadan et le prophète avait ordonné aux gens de jeûner. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, même les enfants avaient pris l'habitude de jeûner en ce jour. Donc nous aussi, si on a des petits frères, petites sœurs, ou alors si on a des enfants, on fait en sorte qu'ils jeûnent. Allez, maintenant, s'ils ne peuvent pas jeûner 9 et 10, ne serait-ce qu'ils jeûnent le vrai, le 10e Muharram, ce sera une source de bénédiction, certainement pour eux. Maintenant, deuxième étape, lorsque le Ramadan a été révélé en l'an 2 de l'Hégire, le Ashura est devenu mustahab. Hadith dans lequel il dit que Inna Ashura yawmun min ayyamillah, faman sha'a sa'amahu wa man sha'a taraka. Hadith d'Imam Muslim, que celui qui veut bien jeûner, qu'il jeûne. Celui qui ne veut pas, qu'il ne jeûne pas. Donc là aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'obligation. Si le jour de... on voit quelqu'un dans la rue en train de manger ou boire ou autre chose, on n'a pas le droit de lui faire des reproches. Contrairement au mois de Ramadan, si on voit quelqu'un en train de fumer, on a le droit de dire à Mustapha, arrête de fumer, t'as pas honte de Ramadan, même si Mustapha ne fume pas, d'accord. Si on voit quelqu'un manger ou boire, on l'arrête. On dit que ça c'est obligatoire. Une obligation, ça c'est pilier, rukn, pilier de l'islam. Mais le jizm haram, si on a quelqu'un, on voit une personne en train de manger, on ne doit pas développer su'dhan. On ne doit pas développer une mauvaise pensée. Peut-être que la personne est malade. Peut-être que la personne a besoin de traitement, de médicaments, d'insuline, je ne sais pas quoi, ou par rapport à son régime, pour le diabète ou autre chose, la personne n'a pas le droit de ne pas manger pendant plus de 2 ou 3 heures à cause d'hypoglycémie ou autre chose. Bref, toujours avoir husnudhan, une bonne pensée pour nos frères musulmans. Alors, si quelqu'un il fait un métier très difficile, d'accord, imaginez quelqu'un qui fait un métier extrêmement physique, donc il ne peut pas jeûner. Allah Ta'ala, il sait que son intention de toute façon était de le faire, mais les circonstances ne le permettaient pas. Donc le jeûne du Ashura est devenu ensuite donc mustahab et il reste donc mustahab. Maintenant, les récompenses, parce que c'est avec ça qu'on avance, c'est avec ça qu'on est motivé. Abu Qatada radhiyallahu anhu avait dit qu'un homme avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la récompense du jeûne de Ashura? Et le prophète dit ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla. Rawah Muslim, j'ai espoir que par le jeûne de ce jour, Allah Azza wa Jal va pardonner les péchés de l'année d'avant, c'est-à-dire l'année qui s'est écoulée. Et maintenant, les savants disent que subhanallah, les sahaba pour rien au monde, ils ne rateraient le jeûne de Ashura. Alors qu'on sait quelle est la quantité de péchés accomplis par un sahaba, quasiment nul. C'est vraiment les meilleurs des hommes. Maintenant, nous, Allah Musta'an, notre époque, avec le nombre de péchés qu'on cumule, le nombre de fois on est insouciant, on a des manquements par rapport aux obligations, on fait des erreurs, on a grandement besoin du jour d'Ashura. On va dire, c'est comme la vidange annuelle. C'est comme si vous amenez votre voiture dans un garage, vous faites une vidange, vous changez toute l'huile, etc., ainsi de suite. C'est pareil. On fait une vidange complète et on a espoir qu'Allah pardonne les péchés. Maintenant, bien sûr, quand on parle de pardon des péchés, ça c'est valable pour toutes les vertus, toutes les hadiths qui parlent de pardon des péchés, ça concerne les péchés du quotidien, les petits péchés. Le grand péché, les guna kabira, nécessite une autre catégorie de tauba qu'on appelle le taubatul nasuha, avec les 3 ou les 4 conditions qu'on a déjà citées à maintes et maintes reprises. Mais subhanallah, le prophète avait dit que attention à, en ce sens, à ce que vous considérez comme petits péchés. C'est exactement comme des personnes qui sont arrivées dans une île, dans un endroit désert, ils veulent allumer un feu. Et chacun va ramener une petite brindille. Il y a toute une équipe, chacun amène une petite brindille. À force de cumuler des toutes petites brindilles, on a un foyer suffisant pour allumer un grand feu. Dit de la même façon, donc, on comprend qu'on amène des petits péchés régulièrement. Du matin au soir, on fait des petites erreurs, mais en finalité, ça devient aussi lourd en conséquence qu'un péché majeur. D'où l'importance de jeûner le jour de Ashura pour qu'Inch'Allah, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés qu'on a pu accomplir durant cette année. Et encore une fois, on va le répéter, idéalement, c'est de jeûner demain, mercredi, plus jeudi, d'accord. Si vraiment on n'a pas la... Ou alors jeudi et vendredi, mais avec un peu plus de vertu, point 9 et 10. Maintenant, si vraiment quelqu'un a des gros problèmes, il ne peut pas jeûner plus d'un jour, ben que la personne se garde pour le dixième, pour jeudi. Donc, avec espoir que... Mais maintenant, quand on met cette action en pratique, là, il faut le sentir. C'est pas que j'ai jeûné, voilà, et puis c'est fini. Non, il faut vraiment que j'éprouve de la joie en ce jour. J'éprouve de la satisfaction, et principalement un peu avant la rupture du jeûne, je me dis que subhanallah, il me reste une heure de temps, il me reste 30 minutes, je vais bientôt rompre le jeûne, et c'est-à-dire que je vais compléter mon jeûne de Ashura, et là, quand je vais casser mon carême, le somme a été complété, j'ai la certitude, la conviction qu'Allah a déjà pardonné les péchés que j'ai accomplis pendant un an. C'est quelque chose qu'on doit vivre, on doit développer iman yaqin dessus pour avoir plus l'envie de le mettre en pratique et de le faire avec dévotion, avec conviction et surtout par soumission envers Allah Azza wa Jalla. Donc inshallah, on fait tous l'intention, le niyat, demain inshallah on se réveille, on jeûne et jeudi on complète le deuxième pour que on mette cette sunna en pratique et avec ça nos péchés seront inshallah pardonnés. Maintenant, certains savants disent également le cas d'une femme par exemple qui est en état d'impureté, donc qui ne peut pas jeûner. Il dit que il y a un hadith général qui dit que lorsque un croyant a l'habitude de faire une bonne action et que par rapport à des circonstances, voyage ou maladie, la personne ne peut pas faire cette action, Allah Azza wa Jalla connaît la bonne intention dans le cœur de cette personne. Donc Allah lui accorde l'intégralité des récompenses. Et c'est également le cas d'une personne qui avait l'habitude de jeûner, de faire de bonnes actions dans sa jeunesse. Et quand il a 70, 75 ou 80 ans, là il ne peut plus. Il n'arrive plus à faire tahajjud, il n'arrive plus à rester dans la masjid jusqu'à shuruq, comme nos grands mashaïkh, nos bouzouk le font, à lire le Coran, faire dhikrullah jusqu'au lever du soleil, faire de raka'at, ils ne peuvent plus. Allah, Azza wa Jal, dans sa science infinie, sait que cette personne l'aurait fait, cette bonne action, si elle avait encore la force et la santé. Donc Allah Azza wa Jalla est tellement karim, tellement généreux qu'Allah ordonne aux anges d'inscrire la bonne action pour ce serviteur, même si il ne peut plus l'accomplir. Donc certains savants disent de la même façon, cette femme qui avait vraiment l'intention d'accomplir le jeûne en ce jour et qui se retrouve dans une situation où elle ne peut pas jeûner, n'a pas le droit de jeûner, on a grand espoir que dans la générosité, subhanallah d'Allah, il va accorder quand même la récompense à cette personne. Mes chers frères, qu'Allah nous accepte, on a besoin de ce moment, de ce genre d'occasion qu'Allah nous donne, parce que tellement de péchés qu'on accomplit, Allah musta'an, on fait tellement d'erreurs, des erreurs dont on est conscient, mais souvent des erreurs dont on est inconscient. Et c'est vraiment ce genre d'occasion qu'on a besoin pouvoir enlever ses péchés, parce que le but avant tout c'est de se présenter devant Allah Azza wa Jal sans qu'il n'y ait de péché dans notre livret de compte. Qu'Allah nous permette d'atteindre cet objectif et qu'il soit toujours satisfait de nos mains. Tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.